un podcast France Culture.
Sobriété, décroissance, ralentissement, autant de mots et de projets de société qui ont été portés, il y a 50 ans déjà, par des économistes, des scientifiques, des alerteurs, conscients de la finitude des ressources de la Terre, mais aussi des conséquences multiples qui pouvaient découler d'une course sans fin à la croissance. 50 ans après, depuis l'appel lancé en août 2022 par le président français pour une sobriété énergétique, et dans un contexte de crise économique et de guerre en Europe, quelle économie post-croissance se profile? À quoi ressemblerait un monde post-capitalisme? Serait-ce vraiment sans douleur? Réponse avec nos deux invités, Timothée Parikh, économiste, chercheur à l'école d'économie de l'université de Lund et spécialiste de la décroissance. Il est aussi auteur du livre « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance », un livre édité au Seuil. Et avec nous, Mathilde Chouba, sociologue, maîtresse de conférences à Sciences Po Lille, spécialiste des politiques de quotas individuels d'émissions de carbone, et elle est membre de l'Institut Momentum, un institut consacré aux politiques de décroissance et aux risques d'effondrement de la société industrielle. Mathilde Chouba, vous avez co-dirigé avec Agnès Sinaï le livre « Gouverner la décroissance » édité aux presses de Sciences Po. Et puis dans l'œil du Monde Planète, le journaliste du quotidien Le Monde, Stéphane Foucard, reviendra sur l'enquête relative à l'eau potable, une eau non conforme pour 20% des Français. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales, avec la complicité de Valérie Ernoul et Vanessa Chang, réalisé par Alexandra Malka, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi.
À bas le développement durable, vive la décroissance conviviale. Effectivement, nous nous battions contre le développement et contre la forme la plus perverse, en quelque sorte, et celle qui a eu le plus de succès, c'est le développement durable. Et nous étions déjà convaincus à l'avance que le développement, précisément, n'est pas durable. Et donc, face à ce slogan qui, du point de vue publicitaire, a été une très grande réussite, puisqu'il a réussi à convaincre tout le monde, nous avions besoin d'un mot fort. Et décroissance, qui semble blasphématoire, puisque nous vivons dans la religion de la croissance. Décroissance, ça fait un effet de provocation, parce qu'immédiatement les gens se disent « mais comment ? Ils sont fous ces gens, comment peut-on préconiser la décroissance ?» Mais en même temps, étant provoqué, certains esprits curieux se disent « mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?»
Extrait de l'émission « À voix nue » avec Serge Latouche, c'était sur France Culture le jeudi 2 mai 2013, en diffusion, voilà. Extrait donc de ce grand homme, hein, les paroles, Serge Latouche, précurseur de la décroissance en France. Il est des mots, Timothée Parikh, qui font peur, hein, comme celui de décroissance, qui rime pour beaucoup avec régression, déclin, fin du progrès et du confort. Certains préfèrent, on le sent, et notamment dans l'univers politique, sobriété. En fait, vous nous expliquez dans votre livre que c'est plutôt le mot « croissance » qui devrait nous faire peur.
Exactement. Quand on regarde qu'aujourd'hui, non seulement la croissance, mais le PIB, donc l'activité économique en général, est toujours couplée, corrélée avec des dégradations environnementales de plus en plus cauchemardesques, et bien quand justement on parle que chaque année on va augmenter exponentiellement les niveaux de production et de consommation, ça devrait nous terroriser.
Donc, si on continue à vivre dans un monde de croissance, hein, du capitalisme, avec comme baromètre, on va le comprendre, le PIB, nous allons vivre des catastrophes, c'est ce que vous dites, subir des situations de mal-être et de souffrance, régression sociale, dégradation écologique, c'est ce portrait. C'est pour ça que vous dites vraiment, il faut avoir peur de ce mot croissance et ne pas regarder le mot décroissance comme un grand loup dans la bergerie, quoi.
Mais exactement, c'est un chantier. Moi, j'aime beaucoup le mot de décroissance parce que c'est un mot portail qui nous projette un petit peu dans un au-delà du système économique actuel. Donc, c'est un mot chantier pour venir travailler institutionnellement notre économie pour pouvoir remettre à plat certaines de nos pratiques de production et de consommation qui, on le réalise aujourd'hui, ne sont plus soutenables et certaines d'entre elles ne sont même plus désirables socialement. Et donc, l'appeler décroissance, et c'est ce que disait Serge Latouche, ça vient toucher un nerf sensible dans notre imaginaire moderne qui est celui de la croissance et de son association avec le progrès. Alors moi, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la croissance économique n'est pas du tout l'équivalent du progrès, de l'innovation, de l'ascenseur civilisationnel vers le haut, mais on peut avoir des phénomènes de croissance anti-économique où justement on a une agitation qui va être néfaste parce qu'elle génère plus de coûts que de bénéfices.
En tout cas, ça l'a peut-être été dans l'histoire, mais ça ne l'est plus déjà depuis plusieurs décennies.
C'est ça. Donc dans le contexte des pays riches, des pays aux revenus, des pays à gros PIB, on pourrait dire, des pays qui ont déjà produit et consommé un certain nombre de choses, qui ont l'infrastructure, les compétences, le revenu national nécessaire pour pouvoir satisfaire tous leurs besoins, et ben en fait, c'est des économies qui sont déjà arrivées à la taille adulte, mais qui s'entêtent à vouloir gagner en centimètres après année, alors qu'elles devraient comprendre que le défi, maintenant, ce n'est plus un défi quantitatif, c'est un défi qualitatif.
Mathilde Chouba, nous vivons donc un choc énergétique, à l'image de ce qui s'est passé en 1973. Je rappelle que c'était une période de crise pétrolière et guerre au Moyen-Orient. Donc une décroissance à ce moment-là dans l'urgence. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans ce même type de choc? Et est-ce qu'on doit craindre, selon vous, un retour au monde d'avant sans penser aux limites planétaires une fois la crise passée?
Alors oui, le choc pétrolier de 73, on parle de coup de tonnerre dans les Trente Glorieuses parce que on parlait des taux de croissance du PIB juste auparavant et dans les années 70, en France, on a des taux de croissance de 5 à 6 %, donc complètement inimaginables aujourd'hui et qui reflètent bien l'expansion réelle, concrète, ressentie et visible qui est observable dans la société et qui contribue à une augmentation de l'équipement, de la mobilité, de tout ça. Et le choc pétrolier va être provoqué par une décision de l'OPEP et une guerre au Moyen-Orient, mais va, pour ceux qui ont des lunettes écologiques pour lire les événements du monde, va être pris comme un rappel très fort et très concret de l'existence de limites écologiques qui sont à la base de notre fonctionnement, nos économies, etc., et qui ne peuvent pas être niées pendant très longtemps, sous peine de se réveiller un matin en étant très mal dans notre dépendance à ces ressources. Et après le choc pétrolier a été une occasion de réduction de la croissance. Il y a eu une croissance négative qui est une exception en fait en 74-75. C'est une exception dans l'histoire de cette période. Mais effectivement, l'économie va reprendre assez vite après, pour être restoppé un petit peu par le deuxième choc pétrolier 79, mais on peut vraiment dire que ça a été à la fois un moment très révélateur et très illustrateur du fondement de la pensée écologique qui est d'insister sur l'existence de limites environnementales, et aussi un moment assez triste puisque aussi révélateur et visibilisant qu'il ait pu être, il a été assez vite oublié dans l'histoire des sociétés. Donc on est effectivement revenu après à quasi comme avant, enfin quasi comme avant avec quand même une économie, une énergie plus chère, bien qu'on ait eu des discours du type, je cite directement, « le monde d'avant ne reviendra pas ». On a présenté ça comme des ruptures, mais qui n'ont pas été sur tout.
Timothée Paric, en entendant les propos de Mathilde Chouba, c'est vrai que ça fait aussi penser à certaines expressions que vous utilisez dans votre livre. Et vous êtes direct, l'économie c'est une question de vie ou de mort, l'effondrement écologique est un tabassage et la première cause de ce déraillement écologique est le capitalisme. Et puis, c'est intéressant, vous reprenez aussi l'expression de Hannah Arendt qui parlait de la banalité du mal. Vous parlez de la banalité économique du mal. Donc, il faudrait en finir avec la croissance, mais même quelle qu'elle soit, c'est-à-dire même la croissance verte, la croissance circulaire, le développement durable. Est-ce que les gouvernements actuels en prennent, selon vous, le chemin avec justement cette politique de sobriété énergétique actuelle?
Alors non, on n'y est pas du tout. Déjà, il faudrait qu'on revienne, comme l'avait dit Serge Latouche, à une contextualisation de l'agitation économique. C'est-à-dire que dans des pays du Sud où on va avoir besoin de construire une certaine infrastructure, oui, là, on va avoir besoin d'une certaine agitation économique. Moi, j'ai pas envie de l'appeler la croissance parce qu'aujourd'hui, on retombe tout de suite un petit peu dans cette mesure simpliste des valeurs monétaires par la comptabilité nationale, alors que certaines agitations économiques sont non monétaires, se font dans ce qu'on appelle l'économie informelle, et on devrait sûrement lui donner un autre nom parce que c'est une économie qui est beaucoup plus importante dans bien des pays, et même dans un pays comme la France, que l'économie monétaire. Donc certaines agitations, quand il y a un besoin à satisfaire, on s'active, on produit, il n'y a pas de souci. Mais dans des pays qui sont déjà arrivés, où là, le surcroît de production va épuiser les gens qui travaillent, va assécher les heures disponibles pour d'autres systèmes de production en dehors de l'économie, et surtout va venir stresser des écosystèmes qui sont déjà au bout de leur capacité de charge, là on voit bien qu'il y a un souci. Et je finis avec ça, quand on connecte les deux, on se rend compte que si il y a des limites planétaires, ça veut dire que nous avons des budgets écologiques limités, que ce soit pour le carbone, la matière, l'énergie, l'eau, la biodiversité, ça veut dire qu'il va falloir les partager. Donc si on a un besoin d'agitation économique dans des pays, par exemple comme le Pakistan, qui vont devoir énormément reconstruire, il va leur falloir de l'énergie, des matériaux, un espace climatique qui puisse absorber un petit peu de carbone pour cette transition. Donc nous, notre responsabilité dans les pays riches, c'est d'organiser cette décroissance conviviale qui va permettre de libérer des ressources, et on le verra après, ça ne sera pas seulement de la charité, ça va aussi permettre d'avoir un métabolisme économique plus affiné, bien plus à même de satisfaire le bien-être dans un pays comme la France.
Donc le partage et la solidarité, on va en parler dans un instant avec Mathilde Chouba, mais alors du coup, pourquoi est-ce que l'indicateur PIB règne en maître sur les politiques économiques des nations ?
Alors moi c'est un mystère. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur l'histoire du PIB, donc on s'est inventé par Simon Kuznets en 1930, hein, qui design un petit indicateur de crise pour le gouvernement américain, le tensiomètre de l'économie, voilà, il leur dit vous faites un truc, si ça monte ça veut dire que votre économie est réanimée, si ça monte pas ça veut dire que ça marche pas.
On est dans la crise de 29 quoi, 29-30, voilà c'est ça.
C'est ça exactement.
Contexte.
Mais il leur dit bien attention hein, parce que ça c'est un indicateur de crise, ça marche pas en temps de paix. Et il leur dit aussi attention, c'est un indicateur de quantité, ça vous dit la vitesse à laquelle l'économie tourne, mais ça vous dit pas dans la direction dans laquelle elle va. Et ça, en fait, on l'a complètement oublié. Oui, Simon, oui, t'inquiète, y a pas de souci, d'accord. On écoute, on a mis le mémo dans un côté. 100 ans après, on se retrouve avec ce totem. Et vraiment, on a l'impression que le PIB mesure la prospérité, le bien-être, la totalité des choses que l'on veut. C'est pour ça que j'ai dit dans le livre, c'est un vase symbolique dans lequel on va projeter tous nos rêves et toutes nos peurs. C'est-à-dire que tous nos rêves sont dans l'augmentation du PIB et toutes nos peurs sont dans sa diminution.
Mathilde Chouba, c'est vrai que tôt ou tard, on sent que l'économie de croissance va entrer en collision avec le mur écologique, hein, la crise climatique et environnementale. Le GIEC, dans son dernier rapport, a prévenu. Il faut oublier la croissance dite verte et ne pas parler de développement durable. Et puis, si je ne m'abuse, cette sobriété, en tout cas cette décroissance, l'ADEME aussi porte ce projet dans ces quatre scénarios neutralité carbone, hein, parlant même de génération frugale. Donc, ça veut dire que c'est connu, mais que les politiques n'ont pas pour l'instant inversé un peu la mécanique.
Oui, la sobriété a un succès dont on est presque surpris de voir la diffusion ces dernières années, mais pas vraiment avec une appréhension de la chose telle que Timothée Parry le dit juste auparavant, à savoir parler de budget. Si on a un budget qu'on doit le partager, s'il y a une rareté de quelque chose, rareté d'énergie peu disponible ou budget carbone d'espace d'absorption des émissions de gaz à effet de serre peu disponible, on a une petite quantité de quelque chose et qui malheureusement fonctionne comme un bien collectif ou dans la théorie des biens communs common pool resource, c'est-à-dire quelque chose, une quantité dont les usages sont concurrents. Donc si les uns se servent, ils en privent les autres. Et ça a introduit une compétition et un degré de conflictualité beaucoup plus important que quand on se rêve, faussement, mais néanmoins, quand on se rêve dans un monde d'illimitation et un monde infini. Donc la sobriété, en fait, ça devrait être l'organisation du partage de ce budget et la répartition des efforts de sobriété à l'intérieur de ce budget contraint. Mais le cadrage actuel, enfin le cadrage donc à savoir l'interprétation dominante depuis les discours d'Emmanuel Macron, par exemple, en septembre, en février 22, ou à la rentrée, Elisabeth Borne, etc. C'est un cadrage de la sobriété qui déjà l'assimile à des petits gestes et de l'efficacité comportementale, donc des petites choses. Ça, c'est un risque qui existait déjà depuis un moment, à savoir ne pas confondre la sobriété avec le reste, avec d'autres mesures, ce qui nous prive d'un mot pour décrire cet énorme chantier de la réduction des besoins et de la réduction de la demande qui va être très très politique et qu'il faut absolument mettre sur la table en tant que tel, mais si on n'a pas le mot pour le définir, il nous échappe. L'autre problème avec le cadrage actuel, et qui lui est plus récent, c'est un fort risque de dépolitisation. Demander que tout le monde réduise de 10%, c'est une approche indifférenciée qui fait semblant de ne pas voir qu'il y a une inégalité très très forte entre les consommations d'énergie des uns et des autres. Donc demander la même chose à tout le monde, en fait, c'est indécent, c'est faire semblant que c'est égal, mais ça ne l'est pas. Une approche politique dans ce cadre-là, ça serait de dire que s'il y a sobriété à faire, les plus riches doivent faire les efforts les plus importants, et les premiers parce que leur mode de vie n'est pas soutenable. Et sinon, c'est indécent, immoral et même, en fait, complètement impossible parce qu'ils représentent une telle quantité de ces consommations d'énergie qu'on ne peut pas se passer d'eux. Et deux derniers risques, celui de définir la sobriété comme une façon de faire le dos rond, en fait, pour la crise qui nous attend, là, juste cet hiver, comme si c'était juste un mauvais moment à passer. Mais ça n'ira pas mieux ensuite, puisque en plus de ce problème peut-être temporaire qu'on a avec la Russie, et peut-être, En plus de cela, on a ces objectifs climatiques vertigineux à suivre. Réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans moins de 8 ans. Et au-delà, ça continue encore avec une réduction division par 6 d'ici 2050. Donc en fait, ça va continuer à s'accentuer.
Alors justement, pour rebondir sur ces questions, Timothée Parik, mais comment on dépasse cette idéologie de la croissance? On a besoin de nouveaux mots, hein. Mathilde Chouba disait, voilà, on a un problème de mots. Et par quoi on remplace justement cette idéologie de la croissance? C'est-à-dire en quoi consisterait cette économie post-croissance?
Alors c'est ça, le mot décroissance, on l'utilise comme électrochoc pour créer cette discussion. Et je pense qu'ensuite, c'est un mot à usage unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à créer cet électrochoc, on va pouvoir discuter. Ensuite, on le laisse tomber parce qu'une fois que l'idéologie de la croissance aura disparu, il n'y aura plus tellement d'intérêt de parler décroissance. Une fois que ce régime sera entamé, et ben là, il n'y aura plus trop de soucis. Une fois qu'on ne sera plus ralenti par la poursuite de la croissance, c'est exactement ça. Et là, on pourra tendre vers un régime de la post-croissance. Donc moi, c'est comme je la décris dans le livre, hein, une économie qui serait donc stationnaire, ça c'est très important. Donc une économie stationnaire en harmonie avec la nature. Donc c'est une économie dont la taille serait encastrée de manière soutenable dans les écosystèmes en fonction de leur capacité de charge. Donc bien sûr, ça peut varier. Si on arrive à améliorer le recyclage de quelque chose, si on découvre une nouvelle ressource, on peut produire un petit peu plus, si on a envie, on n'est pas obligé. Et si on a une canicule, si on se retrouve avec une sécheresse, là par contre, il faut s'adapter. Donc une économie de la fluctuation, en harmonie avec la nature, et qui réponde à des besoins concrets. Ça c'est super important de se dire, si nous avons besoin de nous agiter pour produire quelque chose dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui, l'économie peut fluctuer un petit peu dans sa marge de manœuvre écologique, dans son couloir écologique. Et une fois que ce besoin est satisfait, cette production peut s'arrêter. Ça, c'est aujourd'hui, en fait, on a des économies qui ont été conçues pour pouvoir décoller et continuer toujours à continuer. C'est ma collègue Catherine Trebec qui avait eu cette excellente analogie. Mais on n'a jamais pensé l'atterrissage. Alors qu'aujourd'hui, il nous faut plutôt une économie qui soit stationnaire, qui arrive à avoir des pics de production. On a besoin de satisfaire un besoin et ensuite de pouvoir réatterrir. Donc avoir toujours des petites phases de croissance-décroissance, mais sur le très long terme, ne jamais, jamais faire l'erreur que nous avons fait dans les économies à haut revenu, dépasser les limites planétaires qui mettraient en péril la santé des écosystèmes.
Je vous propose, avant d'aller plus loin, d'écouter cet extrait de reportage diffusé sur France 2 le 25 octobre 2019, réalisé à Thiers, dans le Puy-de-Dôme.
Au cœur du Puy-de-Dôme, la ville de Thiers, 19 000 habitants, 11% de chômeurs, bien au-dessus de la moyenne nationale. Pour lutter contre ce fléau, une entreprise d'un genre particulier a ouvert ses portes il y a près de 3 ans. Ici, que des salariés en CDI payés au SMIC, leur point commun, ce sont tous d'anciens chômeurs de longue durée.
T'en es où? Je peux en ranger?
Comme ces deux couturières, soulagées après plusieurs années sans emploi stable.
Je me sens libre, d'abord, et je me sens que j'ai de la valeur, je n'ai plus la honte et j'ai la pêche.
Quand on n'a pas de travail, on se sent exclu de la société.
La réinsertion, c'est l'objectif premier du dispositif Territoire Zéro Chômeur. Thiers fait partie des 10 villes choisies par l'État pour cette expérimentation. Le but, un retour à l'emploi pour les personnes inactives depuis plus d'un an.
Plutôt que de payer une allocation, on va payer le salaire. L'objectif, c'est que ça ne coûte pas plus cher à la société de faire travailler les gens plutôt que de les laisser au chômage. Et aujourd'hui, on est capable de quantifier la partie financière, mais il y a tout un aspect qualitatif. Vous avez vu tout à l'heure que les personnes retrouvent le sourire, et ça, c'est difficile à quantifier.
Un bilan satisfaisant selon le directeur, à tel point qu'à quelques mètres de là, une deuxième entreprise solidaire s'apprête à ouvrir ses portes. 14 CDI signés hier et d'autres embauches à venir.
Aujourd'hui, on est en cours de démontrer que c'est possible de trouver des activités pour tout un chacun.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Timothée Parik, on doit souvent vous dire l'économie post-croissance, c'est bien gentil, mais vous n'allez pas réduire la pauvreté et le chômage sans croissance. Qu'est-ce que vous répondez?
Bon, déjà, ça serait assez facile de dire qu'on n'arrive pas à résoudre ni le problème du chômage ni de la pauvreté avec de la croissance. Mais on va aller au-delà de ça. Moi, ça me paraît toujours bizarre de me dire qu'on va attendre que le marché, de manière organique et spontanée, vienne résoudre un problème. C'est-à-dire qu'on va mettre un prix sur le carbone et on attend que les marchés prennent une décision efficiente. Bon, historiquement, c'est ce qu'ils font toujours, nous disent les économistes. Dont en 2008, par exemple, des décisions extrêmement rationnelles. Et là, pareil, on va dire, on va attendre que des entreprises à but lucratif en compétition sur des marchés veuillent bien créer des emplois et on espère que ces emplois correspondent à des besoins et se fassent dans des conditions de qualité. En fait, pourquoi attendre ? Les territoires zéro chômeur de longue durée, ça correspond à un concept en économie qui s'appelle la garantie de l'emploi. C'est de se dire que l'emploi, c'est pas seulement un besoin, c'est aussi un droit de participation à la société. Et donc, on peut, à l'échelle d'un territoire, décider, en fonction des besoins, quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits dans notre territoire. Ensuite, quelles sont les aspirations et les compétences des demandeurs d'emploi et est-ce qu'on n'arrive pas à faire des ponts ? Et là, on se rend compte qu'on arrive à créer des emplois que le marché n'aurait jamais créés. Parce que c'est des emplois qui créent de la valeur sociale et écologique, mais qui ne ramènent jamais de l'argent. Mais ça ramène des choses qui valent beaucoup plus cher que de l'argent pour un territoire, parce que c'est des services socio-systémiques, des services écosystémiques, des réseaux de réciprocité, de confiance, des choses qui sont beaucoup plus importantes pour satisfaire un besoin que si vous travaillez dans une grande chaîne à servir des Big Mac.
Et donc vous parlez aussi de mettre en place un revenu de transition écologique, de revaloriser des métiers utiles dans le domaine de la santé, éducation, agriculture, force de l'ordre, entretien des villes, des villages, etc., etc. Mathilde Chouba, ça rejoint certaines de vos réflexions sur justement cette société qui doit peut-être revoir aussi sa relation au travail.
La décroissance a beaucoup insisté sur une mesure qui a longtemps été une mesure de gauche, à savoir la répartition du temps de travail, en fait le partage du temps de travail entre les personnes qui souhaitent en avoir, toujours dans la même idée qu'une rareté de quelque chose qui est essentiel doit se partager, et que pour cela il faut, même si on a un peu de mal avec ça, une intervention forte de l'État dans l'économie, comme le disait Timothée Parek à l'instant. On n'a pas attendre que les choses fonctionnent bien, c'est sujet à beaucoup de déceptions. Et dans les périodes de crise, et quand on estime que quelque chose qui a beaucoup de valeur est en jeu, on trouve beaucoup de franchissement de cette barrière symboliquement délicate, à savoir l'intervention de l'État dans quelque chose qui laisse beaucoup plus volontiers à l'économie et au marché. Mais c'est au nom de la protection d'intérêts essentiels, au nom de la protection des plus faibles, on l'a souvent fait.
Donc en tout cas, moins consommer, moins produire sur des biens et des services ciblés, on l'aura compris, ça doit faire partie de cette économie post-croissance. Aussi, la question du rationnement de l'énergie, des comptes carbone, cela sous-entend aussi des interventions fortes de l'État. Et donc, c'est la question qu'on va se poser, c'est quelle intervention idéale de l'État pour réguler la production et la consommation ?
Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. C'est notre richesse qui s'en va et notre façon de vivre qui est menacée. Alors, que peut-on faire ? Eh bien d'abord, mieux utiliser l'énergie. Et ça justement, nous pouvons le faire sans changer notre façon de vivre. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées.
Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
Deux crises énergétiques, deux périodes de l'histoire. Cet extrait de publicité diffusé en France en 1974 et puis les propos d'Emmanuel Macron lors de son conseil des ministres de rentrée le 24 août dernier. C'était sur France Info. Mathilde Chouba, une réaction peut-être sur ces questions justement d'intervention idéale de l'État pour réguler la production et la consommation. La question du rationnement aussi, en jeu aussi de l'énergie, voire mettre en place des comptes carbone.
Oui, donc l'extrait du moment du choc pétrolier parlait de pas de pétrole mais des idées. En fait, en France, on a été relativement épargné par le choc pétrolier par rapport à plusieurs de nos voisins. Et aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, c'était beaucoup plus raide. Et en Europe, on constate à ce moment-là, alors de façon temporaire, mais néanmoins très instructive pour anticiper ce qui nous attend là dans les mois qui viennent, on constate des interventions très très fortes de l'État dans l'économie, avec des pouvoirs spéciaux que se donnent les gouvernements pour justement intervenir dans cette fameuse économie à qui on laisse faire une partie du travail, et pour réduire en urgence les consommations d'énergie, réduire la demande. On observe des mesures comme, alors d'abord les mesures incitatives, hein, faisons tous des efforts, réduisons la vitesse, le chauffage, etc. Mais des mesures plus contraignantes comme la limitation du chauffage à 19 degrés dans les bâtiments publics, ce qui est amusant parce que, en fait, cette loi a toujours été, depuis 73, en vigueur en France, mais on la ressort là, par exemple dans les universités, on a des consignes dans toutes les facs de revenir à 19 degrés, ce qui semble être un effort justement parce qu'on ne l'avait pas suivi. On a des mesures plus frappantes aussi, comme les dimanches sans voiture, qui sont instaurés une semaine même pas après la déclaration d'embargo de l'OPEP, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, donc les dimanches où personne ne circule sur les routes, mis à part les services de pompiers, police, etc. Donc c'est très spectaculaire à voir. Et puis des mesures plus directement en lien avec l'économie, comme la réduction de la semaine de travail à 3 jours seulement en Grande-Bretagne pour réduire la consommation du secteur économique. Donc semaine de travail de 3 jours et chômage partiel en partie compensé, mais c'est une crise économique grave, donc il y a aussi une baisse des revenus. Et puis des mesures, il y a rationnement des automobilistes, 20 litres par semaine aux Pays-Bas, et des mesures qui sont plus emblématiques, même si elles ne vont pas entraîner une très forte réduction de la consommation d'énergie, en fait elles sont importantes pour la cohérence de l'ensemble, cohérence sociale et cohérence politique. Par exemple, en France, on interdit les rallyes auto. Alors ça consomme pas énormément d'énergie par rapport à la quantité qu'il faut baisser, mais ça n'aurait pas pu être défendu, en fait, politiquement, de maintenir des usages liés aux loisirs, ostentatoires et le fait d'une minorité privilégiée, en fait. Ça n'aurait pas pu être défendable, en fait, de maintenir ça tout en ayant à côté des Français en difficulté parce que l'essence est passée à 4 fois plus cher. Donc voilà, ça c'est des mesures vraiment fortes, mesures qu'on appellerait aujourd'hui de sobriété et qui sont prises pourtant dans un contexte politique qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui parce que c'est relativement bien accepté.
Timothée Paris, justement, sur ces questions-là, qu'est-ce qui peut être accepté, qu'est-ce qui ne l'est pas? Il faut quand même rappeler que ceux qui consomment le plus, ce sont ceux qui ont les moyens de consommer le plus. C'est tabou quand même de dire qu'il faudrait faire des catégories de personnes plus taxées, y compris sur les revenus. En France, il y a l'économiste, Éloi Laurent travaille sur ces questions-là, mais Thomas Piketty, qui parle du système de redistribution. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore mis en place quelque chose qui pourrait être de l'ordre de ce partage et d'une réponse collective face aux pénuries, hein, pas seulement la pénurie énergétique?
Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des chiffres, on observe une corrélation entre pression environnementale, donc pas seulement les émissions et la consommation de l'énergie, mais toutes les pressions environnementales, et le revenu et la richesse. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il va falloir avoir des stratégies différenciées. Surtout dans un contexte où on a quand même une grande partie de la population qui est dans une situation très vulnérable, où elle ne peut pas se permettre de moins consommer, elle ne peut pas se permettre de baisser la température, elle ne peut pas se permettre de ne pas prendre la voiture quelques heures de moins par semaine. Donc là, il va vraiment falloir faire un calcul ciblé, vraiment voir la sobriété comme une opération chirurgicale dans l'économie où on va aller chercher les émissions là où elles sont. Donc au lieu de parler de chacun mettre un col roulé et d'arrêter d'envoyer des mails, non, il va falloir faire des grandes listes de priorités, un petit peu comme on l'a fait pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on a fait des grandes listes de priorités, on s'est dit quelles activités, est-ce qu'on va accepter qu'elles continuent, de prendre le risque peut-être de contaminer les autres en allant au travail, et bien sûr si on était infirmière, aide-soignante, paysan, on allait travailler parce que c'était considéré essentiel. Alors que si on faisait du marketing pour une marque de parfum, on pouvait comprendre que non, on restait à la maison. Et là, avec une contrainte qui est nouvelle, c'est pas la même contrainte, c'est pas une contrainte sanitaire, c'est une contrainte qui va être dans le futur très très proche énergétique, c'est une contrainte qui va être ensuite climatique, et c'est une contrainte beaucoup plus généralement qui va rester écologique. Là aussi, ça va nous forcer à faire des choix. Et moi, vraiment, quand on fait des choix, il faut parler d'empreinte bien-être. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir ces 3 choses en tête. Donc, les contraintes écologiques, les inégalités qui vont façonner un petit peu on baisse où et quoi, et ensuite le prisme, les lunettes du bien-être, pour pouvoir se dire, peut-être qu'on peut se passer très facilement des panneaux lumineux, des pubs dans les gares. Je pense que si on supprimait dès aujourd'hui tous les panneaux lumineux dans toutes les gares, dans toutes les villes de France, dans toutes les extérieures, personne ne serait triste et viendrait pleurer, se retrouver dans une situation de vulnérabilité. Donc ça, c'est un choix exceptionnel. Haute empreinte carbone, faible empreinte bien-être, on coupe.
Mathilde Chouba voulait réagir.
Oui, justement, pour la publicité, c'est un bon exemple, puisque en 73-74, en Grande-Bretagne, on a interdit l'utilisation de l'électricité pour faire fonctionner les pubs. Et pourtant, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, des publicités fonctionnant à l'électricité. Mais justement, il a été jugé que c'était pas possible. Il y avait des coupures de courant tous les jours, hein, pendant 2 heures, annoncées plusieurs jours à l'avance, de telle heure à telle heure le mardi, de telle heure à telle heure le mercredi. Et donc, qu'il y ait des coupures, des délestages comme ça, mais que dans cette période de pénurie, on permette quand même d'utiliser l'électricité pour faire fonctionner des pubs, ça n'aurait pas semblé suffisamment cohérent. Et la cohérence, en fait, elle est très importante, pas juste pour le citoyen, mais pour l'acceptation de l'effort au niveau collectif. C'est vraiment très très clair que les restrictions sont d'autant mieux acceptées qu'elles sont justes, donc que la justice sociale est prise en compte et que donc on demande des efforts à ceux qui sont les plus responsables, et pas les plus faibles en l'occurrence, qu'elles sont justifiées parce que la crise est majeure, visible, claire pour tout le monde. Pendant l'épidémie, c'était ça. Pour le choc pétrolier, c'était le cas aussi. Et puis que les autorités sont jugées crédibles. Et elles sont d'autant plus crédibles qu'elles sont cohérentes, à savoir qu'on leur fait confiance pour mettre en place des mesures de restriction de façon, voilà, d'une façon logique, donc pas demander des efforts importants dans un secteur de l'économie et zéro de l'autre côté, oui. D'où le cas des publicités. Et puis aussi de façon cohérente par rapport à la crédibilité du gouvernement, c'est aussi ce qu'il a fait sur le plan énergétique et ce qu'il continue à faire. Donc en l'occurrence, par exemple, aujourd'hui, vous avez un effort de sobriété qui est annoncé avec grand renfort de drapeau, mais il y a toujours un plan de relance autoroutier. Il y a toujours des constructions d'autoroutes qui se font au nom du plan de relance. Il y a des extensions d'aéroports qui sont prévues. On ne touche pas aux rallyes routiers. Publicité, les jets privés, on envisage juste de les réguler. Et ça, ça joue aussi beaucoup pour le consentement à faire des efforts.
Alors, Timothée Parik, à ce stade de l'émission, je me tourne vers vous parce que il y a du bien-être aussi dans la musique. Et vous nous avez proposé, je crois que c'est vous, hein, Les Fleurs, c'est ça ?
C'est ça.
De Minnie Riperton. Est-ce qu'il y a une raison à ce choix ?
Pas tellement, mais c'est une chanson que j'écoutais beaucoup pendant que j'écrivais le livre. Et d'une certaine manière, ça me mettait de bonne humeur.
More. It moves to spread love and joy. C'était Les Fleurs, chantées par Minnie Riperton, et c'est la suite de De Cause à Effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en direct et en compagnie de Timothée Paric, économiste, auteur du livre Ralentir ou Périr, l'économie de la décroissance, un livre édité au Seuil. Et avec nous également Mathilde Chouba, sociologue, maîtresse de conférences à Sciences Po Lille et membre de l'Institut Momentum. Elle a co-dirigé le livre « Gouverner la décroissance » édité aux presses de Sciences Po. Et nous nous intéressons, vous l'aurez compris, au monde post-capitalisme et à ce que serait une économie post-croissance. En un mot, comment vivre en décroissance? Mais tout de suite, comme d'habitude, nous prenons la direction de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média. Stéphane Foucard est notre œil du monde de Planète pour une enquête menée avec Stéphane Mandard et Florence Trollet. On y parle de qualité de l'eau, de pesticides et un chiffre est des plus surprenants.
Oui, un chiffre surprenant, un chiffre qui provient de données que nous avons passé plusieurs semaines à collecter auprès de différentes administrations. Données selon lesquelles environ 20% des Français de métropole, soit environ 12 millions de personnes, ont reçu en 2021, de manière ponctuelle ou régulière, une eau non conforme aux critères réglementaires de qualité. Et dans la majorité des cas, cette dégradation de la qualité de l'eau est ou a été lié aux pesticides qui contaminent les ressources en eau potable, que ce soit les eaux de surface, les fleuves ou les lacs, ou les nappes d'eau souterraines. Alors ce chiffre, il est surprenant parce que l'année précédente, en 2020, on comptait seulement 5,9% des Français dans cette situation, soit plus de 3 fois moins.
Est-ce qu'on sait pourquoi il y a justement cette différence? Que s'est-il passé entre 2020 et 2021?
Alors ce qui s'est passé, c'est un simple changement dans les plans régionaux de surveillance de la pollution de l'eau. Alors pour comprendre, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'une fois dispersés dans l'environnement les pesticides, mais c'est aussi le cas pour toutes les molécules de synthèse, se dégradent et se recombinent pour donner de nouvelles substances, que les chimistes appellent des métabolites. Et la seconde, c'est que jusqu'à présent, la plus grande part de ces métabolites de pesticides n'étaient pas recherchés dans l'eau potable. On cherchait les pesticides, mais pas leurs produits de dégradation. Et ce que vous ne cherchez pas, Aurélie, eh bien, vous n'avez aucune chance de le trouver. Alors, les choses ont changé en décembre 2020 avec la refonte de la directive européenne sur l'eau, qui a contraint les États membres de l'Union à rechercher des métabolites qui étaient jusqu'à présent restés sous le radar de la surveillance, bien que leur dangerosité n'ait pas été formellement exclue, ni même parfois simplement évaluée. Et le seul fait de rechercher moins d'une demi-douzaine de nouveaux métabolites dans les réseaux d'eau potable a fait exploser les chiffres. Et c'est en particulier le cas dans certaines régions, comme les Hauts-de-France, où 65% de la population a reçu en 2021 une eau non conforme, principalement en raison de 2 métabolites d'un herbicide qui est fréquemment utilisé depuis les années 60 sur les cultures de betteraves, la chloridazone. Et les chiffres sont frappants ailleurs en France, en particulier en Bretagne, où 43% de la population a également été concernée en 2021, 25% dans les Pays de la Loire et le Grand Est, 17% en Normandie, etc.
Alors bien sûr, il y a une question qui doit se poser dans la tête des auditeurs, et dans la nôtre également. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la situation et en particulier pour la santé?
Alors c'est évidemment, comme vous le dites Aurélie, la question majeure. Ici on parle de critères de qualité de l'eau, c'est-à-dire de la présence de pesticides ou de métabolites potentiellement dangereux à des concentrations supérieures à 0,1 microgramme par litre ou à 0,5 microgramme par litre pour leur somme. Et donc, au-delà de ces seuils, on considère que l'eau ne répond plus aux critères dits de qualité, mais elle n'est pas pour autant réputée non potable ou dangereuse pour la santé. C'est important de le comprendre. C'est en tout cas le message que veulent faire passer les autorités sanitaires. Mais c'est toute la difficulté ici de la situation, parce que pour de nombreux métabolites de pesticides, les études sont lacunaires, voire parfois complètement inexistantes. Et quand on n'a pas de données, eh bien, il est très difficile, voire impossible, de fixer des seuils de danger. Alors en attendant, ce qui s'est passé, c'est que des seuils provisoires sont adoptés, en reprenant une méthodologie développée par l'Allemagne, de manière à éviter de restreindre la consommation d'eau pour des centaines de milliers de personnes sans que le risque soit avéré. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toutes ces décisions sont frappées de grandes incertitudes. En fonction des régions, des réponses différentes ont été apportées par les agences régionales de santé et les préfectures. En 2021, par exemple, pour un même métabolite de pesticides, le seuil provisoire était différent d'un facteur 15 entre le Grand Est et les Hauts-de-France. Et en gros, ça veut dire qu'on pouvait boire de l'eau près de Senlis, alors que la même eau aurait été déclarée non potable près de Strasbourg.
Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale? Et si oui, quand?
Alors la réglementation est très claire sur ce sujet. Elle donne 3 ans aux collectivités touchées, renouvelables une fois, donc 6 ans au total, pour revenir au seuil de qualité. Mais on ne sait pas si ce sera toujours possible, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les solutions de traitement de l'eau ne sont pas suffisamment performantes pour certains métabolites, et qu'en plus, certains d'entre eux peuvent persister de nombreuses années dans les nappes phréatiques. En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Alors la conclusion, Aurélie, c'est que les autorités n'ont pas encore pris la pleine mesure des effets des pesticides sur l'environnement. Et donc de leurs effets sur la santé publique.
Merci Stéphane Foucard.
Merci.
À suivre, donc, on le comprend avec vous, avec l'équipe des pages Planète du Monde. Et pour retrouver votre article, résultat de l'enquête menée avec Stéphane Mandard et Florence Trollet, direction notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et le site du journal, bien sûr, lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
On est accueilli par des moutons.
Alors ça, c'est Pelote.
Thierry élève des moutons, bientôt des poules, fait pousser fruits et légumes avec une idée simple.
Manger ce qu'on... et partager ce qu'on a cultivé. Quoi.
Et il fait son bois, comme on dit, et récupère aussi l'eau de pluie.
On se trimballe des arrosoirs, ça fait un peu de musculation, on n'a pas besoin d'acheter de cartes pour le club de sport. On est un peu la génération pousseur de caddie, quoi. On a décidé de réapprendre à cultiver. La décroissance, c'est un autre rapport au temps. On voit bien qu'on entend dire que c'est l'accélération partout, tout s'accélère, on n'a pas le temps de faire les choses. Mais justement, avoir un petit bout de jardin, c'est se réancrer dans des cycles.
Biologiste de formation, Thierry est passé par à peu près tous les métiers, éboueur, instituteur, rédacteur publicitaire, ouvrier dans un abattoir, mais aussi par beaucoup de précarités qui l'ont fortement questionné.
Comment on emploie notre temps pour avoir des activités qui ont du sens ? Est-ce qu'on continue à fabriquer des objets dont on sait qu'ils vont tomber en panne au bout de 2 ans ? Est-ce qu'on continue à produire des objets dont on sait qu'ils intensifient les cadences et donc détractent la vie des gens au travail ?
Une réflexion qui l'a poussé loin, jusqu'à se passer de téléphone portable, de quoi faire réagir ses anciens élèves.
Il y a une petite fille au premier rang qui me dit « mais t'es pas humain ». Et c'est là où ça pose quand même une grosse question de la place de la technique dans nos imaginaires. Prendre l'avion pour aller à l'autre bout de la France en un week-end, pour nous, ça ne doit pas être possible. Ces graines, elles commencent à germer. Et les fractures historiques sont toujours possibles.
Extrait d'un reportage diffusé sur France Info le 15 février 2018. Donc reportage dans le Morbihan avec Thierry Brulavoine qui milite pour la décroissance mais qui a aussi changé sa vie. Un projet de société, Timothée Paric, avec une économie de la post-croissance, c'est repenser notre relation au vivant, produire autrement selon les besoins, partager les richesses de façon plus harmonieuse, redéfinir la prospérité et repenser le temps. Enfin voilà, c'est tout cela en découle. On sent plutôt du bien-être chez ce témoin.
Les gens qui travaillent sur la décroissance, à la fois les chercheurs et les praticiens comme Thierry, en fait, pour nous, c'est un mot positif. Parce qu'il ouvre ce qu'on peut l'appeler la sobriété heureuse, comme le faisait Pierre Rabhi, ou simplement la simplicité volontaire, l'hédonisme alternatif. Il y a plein de termes, ou la résonance, la richesse temporelle, plein de concepts pour venir décrire cette nouvelle relation avec le temps. Donc aujourd'hui, si on pose la question aux gens, la plupart n'ont pas assez de temps pour faire toutes les choses qu'ils veulent faire. C'est la théorie de l'accélération d'Hartmut Rosa. Et ça, un pays qui essaie constamment de croître va venir accélérer ses activités économiques. Et donc, les personnes vont se sentir entraînées dans cette roue infernale du temps. Alors que là, on l'a bien vu dans le témoignage de Thierry. Lui, il vient réancrer ses habitudes, son mode de vie sur un rythme plus lent. Et ça, c'est source de bien-être. Et non seulement de bien-être, c'est-à-dire ça va justement nous permettre d'atteindre le développement qualitatif que l'on espérait par la croissance. Mmh. Ce développement intellectuel, spirituel, convivial, qu'on ne pouvait pas avoir à travers un consumérisme, un matérialiste dont on se rend compte aujourd'hui qu'il ne satisfait pas ses promesses, et bien là, il est disponible aujourd'hui et à moindre coût écologique.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous mentionnez des sondages, Timothée Paric, qu'en 2021, 75% des Français étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'économie devrait prioriser la santé et le bien-être des gens et de la nature plutôt que de se concentrer uniquement sur les profits et l'augmentation de la richesse. Donc 75%, c'est beaucoup. Et un même sondage, commandé par le MEDEF apparemment, affirmait que 67% des Français en 2020 se disaient favorables à la décroissance. Donc là, il y a peut-être aussi une bascule, quelque chose. On voit bien que l'après-Covid aussi génère d'autres envies, une autre façon de vivre.
Complètement. C'est ma grande surprise pour la tournée de ce livre. C'est que plus personne ne défend le capitalisme. C'est-à-dire que si on demande aux gens, peut-être, ah, vous êtes pour ou contre la croissance, ils vont dire, ah ben nous, on est pour la croissance, parce que c'est le progrès, parce que c'est mon pouvoir d'achat, parce que c'est ma liberté, parce que c'est ma capacité d'envoyer mes enfants dans une bonne école. Mais si on explique un petit peu, oui, bah écoutez, la croissance, en fait, c'est pas la croissance de votre revenu, ça va être la croissance du revenu de personnes déjà riches qui vont pouvoir l'utiliser pour investir dans des ressources qui vont ensuite vous vendre, qui va créer une dépendance et vous allez devoir travailler plus. Ah ben non, moi en fait, je préférais augmenter mon pouvoir de vivre à travers justement une gratuité socialisée, à travers un partage des emplois disponibles, à travers des réseaux de réciprocité et des initiatives locales, des jardins partagés, des choses comme ça. Et là, ces personnes-là, ça résonne avec elles. Elles se disent, ah oui, bien sûr, c'est des choses. Moi, je préférerais pouvoir avoir accès à la terre pour pouvoir jardiner. Je préférerais vivre dans une ville où je peux me déplacer en vélo. Je préférerais travailler à côté de là où j'habite, d'avoir accès à une diversité de tâches. Avoir...
Donc participer à cet équilibre, cette stabilité, finalement, c'est pas forcément décroître, mais c'est ne plus croître. Et donc, ça veut pas dire vivre moins bien, mais vivre différemment.
Déjà, c'est accepter le fait de ne plus sacrifier une partie de son temps et ses ressources à l'augmentation exponentielle d'une valeur monétaire. Parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Dans une économie capitaliste, quand on choisit un travail, on se dit « je vais choisir un emploi où je vais bien gagner ma vie ». Donc je ne vais pas devenir l'économiste en chef d'Emmaüs, je vais devenir l'économiste en chef de Total. Combien d'ingénieurs aujourd'hui travaillent sur des publicités pour les SUV ? Donc là, je rejoins ce que Mathilde disait avant. On est dans une stratégie de sobriété, et là, graduellement, nous sommes en train de remplacer l'intégralité de nos voitures par des voitures plus lourdes. Ça n'a aucun sens, et nous mobilisons des personnes les plus créatives en France pour forcer toutes les autres à acheter ces voitures.
Alors, il faut préciser pour les auditeurs qui pourraient se dire, oh, il est bien gentil, mais est-ce qu'il applique tout ça dans sa vie, que votre rythme de vie, vous l'avez changé, hein. Vous ne prenez pas l'avion pour aller en Suède, déjà. Vous prenez le train, donc 20 heures de train, c'est ça?
C'est ça.
Et que vous avez calé, en tout cas, sur vos réflexions, un rapport au temps de travail, temps partagé pour les autres. Et donc, vous appliquez vous-même ces réflexions, je disais, parce que bon, voilà, vous donnez des conseils, mais vous n'imposez rien. Il faut bien le préciser quand même.
Mais bon, en plus, c'est pas par conviction. Je me prive vraiment pour être un symbole de la décroissance. C'est par plaisir. Moi, si on m'enlève ma sieste au milieu de l'après-midi, je ne serais pas content du tout. Je fais la sieste au bureau, ça choque encore un petit peu les collègues, mais je tiens à ça, je tiens à pouvoir varier ma semaine, à ne pas passer 5 jours enfermé à l'université à faire la même chose. Je veux pouvoir participer dans un jardin partagé où j'ai l'impression de créer une autre valeur, faire pousser de la nourriture. J'ai envie d'avoir une autonomie sur les systèmes de production dans lesquels je participe à l'échelle de mon territoire. Et j'ai envie d'avoir une relation harmonieuse avec le monde du vivant.
Mathilde Chouba, je me tourne vers vous. Alors, dans ce monde d'après-capitalisme, ceux qui ont le plus à perdre, c'est vrai que ce sont certainement les plus riches, hein, qui sont souvent les plus puissants aussi en matière de lobbyisme. Il faudrait des politiques publiques courageuses dans un tel système. Un système, précisons-le, hein, une économie de la décroissance portée par un système démocratique à condition aussi de développer une démocratie locale, participative, donc sur le terrain, sur les territoires.
Je pense que ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, avec ce que disait Timothée juste avant, et avec ce que dit Thierry, puisque effectivement, avoir des modes de vie conformes à la décroissance, comme Thierry, comme ce qu'expliquait Timothée, eh ben ça ne suffit pas. Si le reste du monde continue à voler en jet, à courir après la croissance en y étant semi-poussé, semi-participant, semi-brainwashé par des publicitaires. Moi, je suis comme Thierry Brûlavoine, je ne suis pas humaine parce que je n'ai pas de portable, mais c'est aussi parce que ça a un sens pour moi, c'est pas pour être exemplaire, d'ailleurs il n'y a pas grand monde qui le sait, bon maintenant si. Mais l'essence d'une société de décroissance, c'est pas de reposer sur des personnes exemplaires ou des personnes qui font ce qu'elles peuvent pour l'être. Une société de décroissance, vu le rythme et l'urgence de la réduction des consommations, de la réduction de la partie économique de notre vie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est des politiques vraiment beaucoup plus fortes et même des politiques de crise, hein, faut clairement dire les choses. Certains parlent d'efforts de guerre, c'est à peu près ça. Si on doit diviser par 2 puis par 6 les émissions de gaz à effet de serre dans le cours de nos vies, c'est du jamais vu et radicalement. Bon, une des mesures que j'ai étudiées en tant que chercheuse, c'est la politique de quota individuel de carbone, c'est du rationnement du carbone ou du rationnement de l'énergie. Et ça a été proposé par des chercheurs britanniques qui envisageaient ça à la fois comme une mesure pour le climat, mais aussi potentiellement comme une mesure pouvant permettre de réagir à des pénuries. Donc là, on est un peu dans les deux. On a une pénurie devant nous, mais on sait que derrière, on a l'enjeu du climat qui suivra. Ouais. Et donc, ça permet de ne pas juste reposer sur des efforts personnels qui ont du sens au niveau individuel, mais qui sont complètement noyés dans la masse du reste d'une société qui suit d'autres buts.
Timothée Parik, donc cette démocratie, c'est aussi la démocratie locale et participative qu'il faudrait voir advenir, c'est ça, cette proximité et à différents niveaux.
Oui. Yves-Marie Abraham, qui nous écoutera sûrement de Montréal, résume la décroissance en une très belle formule: produire moins, partager plus et décider ensemble. Et là, on se rend compte qu'à partir du moment où on doit faire de la sobriété, de la décroissance, c'est-à-dire choisir les priorités, on ne peut pas le faire sans avoir des protocoles démocratiques. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin de plus de coopératives d'usagers, de coopératives de production, on va avoir besoin de conventions citoyennes, on va avoir besoin de référendums, on va avoir besoin de budgets participatifs, on va avoir besoin de tout un outillage démocratique pour prendre toutes ces décisions, et quitte à le développer, pourquoi pas le garder après, pour avoir dans ce régime de la post-croissance, où au lieu de produire par les prix et pour les profits, on produirait par les besoins et pour le bien-être.
Merci, merci à tous les deux. Merci Mathilde Chouba. Je rappelle le titre du livre que vous avez co-dirigé avec Agnès Sinaï, « Gouverner la décroissance », édité donc aux presses de Sciences Po. Timothée Parik, votre livre s'intitule « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance », édité au Seuil. Et puis à conseiller aussi la très riche collection « Les précurseurs de la décroissance », édité par Le Passager clandestin. Bibliographie, liens sont à retrouver comme d'habitude sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute à loisir, pendant les siestes si vous voulez, et à déguster sans modération sur une planète à consommer, elle, avec modération.